Babylone, Nancy Ypsilantis et Nicole Duparc. Bonjour et bienvenue à Babylone pour ce dernier volet consacré à Vieillir demain, le boom des seniors, une opération de la RTS à voir et à entendre. Pour bien vieillir, il faut bien habiter. Une évidence qui est aujourd'hui au cœur du débat sur la place des seniors dans notre société. Nicole, l'habitat des seniors est un chantier d'avenir.
Absolument. Après une très longue période d'hivernage, on va dire, on peut dire aujourd'hui, sans se tromper, que le logement des seniors constituera à l'avenir et aujourd'hui déjà une préoccupation majeure pour l'architecture, pour l'urbanisme et le mobilier urbain. Aujourd'hui, c'est déjà une évidence, les choses sont en train de bouger, on voit fleurir un peu partout des alternatives, de nouveaux modèles d'habitation. Par exemple, les colocs seniors étudiants, dites aussi colocs kangourous, sont très tendance. Et puis disons que sur l'échelle de Richter de l'habitat senior, on va du village résidentiel hyper sécurisé à l'américaine, au projet par exemple de coopératives intergénérationnelles ou autogérées même, qui mettent en avant bien sûr de toute autre valeur d'ouverture et d'échange. Donc à coup sûr, c'est une autre carte de l'habitat qui est en train de se dessiner là sous nos yeux et c'est ce nouvel espace qu'on va arpenter les yeux bien ouverts en compagnie de nos invités.
À nos côtés, deux acteurs de cette révolution en cours. Willy Anorn, bonjour, bienvenue.
Bonjour.
Vous êtes fondateur de Net Age, à l'origine des résidences de Praroman dans le canton de Vaud. À vos côtés, Jacques Dantan.
Bonjour.
Bonjour, journaliste, gérontologue et membre de la commission Habitat Senior Genève. Vous vous connaissez depuis longtemps?
Depuis les bancs du collège classique.
C'est extraordinaire. Merci à vous deux d'avoir donc quitté votre logement très tôt ce matin pour venir dans nos studios. Pourquoi ce boom de l'habitat senior? C'est une simple question démographique, une affaire de génération. Pourquoi?
Allô. Il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait mettre sur le compte de ce que vous souhaitez. D'abord, vous avez dit démographie, c'est tout à fait exact. Il y a un phénomène démographique il y a un vieillissement en bonne forme qui se prolonge et les gens sont beaucoup plus nombreux en même temps à vieillir en meilleure forme. La période de la fin de vie
est plus longue.
En mauvais état, elle a diminué. Mm-hmm. C'est le Conseil d'État Maillard qui l'a dit hier soir.
On est autonome plus longtemps. On est autonome plus longtemps.
Oui, voilà, exactement. Donc là, et puis il y a une autre raison, c'est la politique de maintien à domicile qu'on essaie de développer encore à l'aide de toutes sortes de techniques pour essayer d'accompagner les gens pour qu'ils restent chez eux le plus longtemps possible, avec parfois quelques problèmes qui se posent quand on a beaucoup retardé un obligatoire déménagement vers un EMS, c'est parfois dramatique. Et puis, il y a peut-être encore d'autres incitations qui font que j'aimerais saluer votre initiative de... d'habiter la problématique du logement parce qu'elle n'est pas intégrée au fond dans les mécanismes économiques. Vous avez l'hôpital qui fonctionne à sa manière, vous avez l'institution qui a le LMS qui a son mode de financement, vous avez les services à domicile aussi. Mais voilà, on peut pas toujours être installé confortablement dans une de ces trois structures. Et là, la société n'est pas encore prête au fond à prendre la part qu'elle devrait prendre sur la manière de mettre en place et de faire vivre un système qui serait intermédiaire entre tout ce que je viens de décrire.
La société a changé.
Oui, la société a changé. Vous voyez déjà avec nous qui sommes presque des vieillards.
Vous avez quel âge? Je peux vous demander vos âges?
Je viens d'entrer dans ma 80e année.
Félicitations.
Et moi j'en ai deux de moins.
Mais ça n'a pas d'importance. C'est simplement que effectivement, on voit bien. Nous sommes, je crois, des représentants de cet âge qui était relativement avancé il y a 20 ans. Et puis aujourd'hui, on est en pleine forme. Donc il y a tout un processus de l'habitat qui est très intéressant, mais qui est très difficile. Il faut pas oublier, par exemple, dans notre bonne vieille ville de Lausanne, il y a certainement des tas de gens qui sont dans des appartements beaucoup trop grands pour eux et qui souhaiteraient probablement trouver un appartement moderne où il n'y a pas de barrière architecturale, rien du tout, mais qui va leur coûter beaucoup plus cher. Alors, on a des espaces vides et des espaces pour aînés, pour seniors, adaptés, qui sont trop rares. Donc, il faudrait trouver de nouvelles incitations pour créer cet habitat senior. C'est ça que, personnellement, je vois le plus grand objectif.
Mmh. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, les planificateurs, les architectes commencent à réfléchir justement sur ces nouveaux modèles d'habitation. Mais est-ce qu'on tient compte du point de vue des seniors? Est-ce qu'on sait quelles sont véritablement leurs attentes? Est-ce qu'il y a, par exemple, des enquêtes qui existent à ce sujet?
Alors, je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'enquêtes qui existent à ce sujet. Et j'en parlais avec M. Nantan à l'instant. En attendant de venir à votre micro, on voit surtout des cadras, des quinquas spécialisés qui planifient l'avenir des personnes âgées. Mais les personnes âgées sont relativement peu questionnées. Et voilà, c'est un petit peu frustrant par moment.
Mmh. C'est-à-dire que les canaux n'existent pas, les lieux, les institutions n'existent pas. Et peut-être, Jacques Dantan, vous faites
partie. Il existe quand même des associations qui défendent les intérêts de la population âgée. La Vivo.
Mais pas forcément sur le logement.
Pas forcément, non.
C'est pas encore un thème prioritaire.
Le consensus des aînés, qui est une chambre de réflexion et de consultation organisée par le Conseil fédéral, a un groupe de travail sur l'habitat. Mais malheureusement, l'habitat, c'est surtout l'affaire des cantons et des communes. Et ce groupe de travail peut-être peine à faire circuler ses projets et ses idées, mais en tout cas, ils ont bien réfléchi dans le sens de la participation. Il faut absolument maintenant qu'on arrive à promouvoir la participation directement, ou la co-création même, comme on entend dire parfois.
Vous faites partie, Jacques Dantan, de la commission Habitat Senior. C'est un groupe de pression, c'est efficace. Quels sont les gros dossiers?
Je ne pense pas qu'on soit un groupe de pression dans le climat politique et dans le contexte qu'on peut observer autour de nous. Vous savez, c'est quelque chose de très dur à faire bouger, puis la politique aussi. Alors, voilà, on essaye dans ce groupe Habitat Senior, qui recrute des architectes, des travailleurs sociaux...
Et des seniors?
Des seniors, oui, comme moi, de faire quelque chose. Et actuellement, le groupe Habitat Senior à Genève est consulté régulièrement sur tous les projets de réurbanisation de la ville de Genève qui est en pleine évolution. Et ça se passe plus ou moins bien. Un des grands quartiers, Praille Acacia Vernet, suscite des appétences terribles de toutes parts, et la voix des seniors, elle aura la peine à se faire entendre dans quelque chose qui devrait pourtant être prometteur.
Donnez-nous alors, justement, sur ce quartier, un exemple concret, par exemple, ça coince.
Il y avait déjà un pacte qui avait été conclu entre le Conseil d'État qui précédait l'actuel, qui prévoyait qu'il y aurait un nombre égal de logements et de postes de travail. Mais voilà, on est revenu en arrière parce que il y a eu des pressions politiques. Par rapport aux seniors.
Mm-hmm. Qu'est-ce que vous souhaitez dans ce genre de
quartier? Alors justement, des aménagements à visage humain, avec peut-être des plus petits parcs, une infrastructure de transport public plus étoffée, des coins d'agrément, des bancs publics, une accessibilité aussi aux grandes surfaces. Elles sont trop éloignées. Il faudrait pouvoir en profiter, puisqu'on est sur quelque chose, un tissu urbain qui va être neuf, de pouvoir remettre des commerces de proximité. Y arrivera-t-on? Je ne sais pas. Il faudrait des lieux de récréation aussi, pour que les gens puissent se retrouver, sortir de chez eux. Ne pas trop créer d'obstacles physiques sur les trottoirs quand on veut sortir de chez soi, etc. Et là, c'est un quartier qui va être en plein chamboulement. Je pense que ce n'est pas toujours facile d'y habiter, en tout cas dans les premières années.
Non, mais au moins s'en occuper en amont et exprimer ses désirs.
Voilà.
Mmh. Alors aujourd'hui, c'est vrai que la majorité des aînés vivent chez eux. Hein, pourtant, la moitié d'entre eux, eh bien, ils vivent seuls chez eux. Donc cette question de la solitude et même parfois de la grande solitude ou du grand isolement, c'est aujourd'hui une donnée massive quand même. Est-ce qu'elle peut remettre en cause justement ce désir de vieillir chez soi qui est tout à fait majoritaire, on le comprend bien?
Alors, je crois pas. Je crois que vieillir chez soi, c'est une idée profonde dans l'individu. Mmh. Ce qu'on constate, c'est que souvent, les personnes s'y prennent très tard à penser à cet ultime logement. Et là, les gens qui attendent se dire, ben, là, je suis encore très bien. Ils vont gagner quelques années encore dans leur habitat, mais ils vont perdre probablement pas mal d'années dans un habitat conforme aux besoins du senior. Et là, c'est un petit peu difficile parce que, vous voyez, moi, j'ai fait le pas. J'ai fait le pas il y a 2 ans. Et il faut savoir que de quitter un 4,5 pièces comme nous pour aller dans un 2 pièces, un 60 m², c'est pas facile. Mmh. Il faut se séparer de beaucoup de choses. Vous savez, chaque objet qu'on a dans son appartement est porteur de souvenirs, de messages, de choses qui vous parlent au cœur, et c'est très difficile. Donc, je peux dire que c'est presque un traumatisme, ce déménagement. Mm-hmm. Et voilà, donc il faudrait que les gens s'y prennent plus tôt. Et si les gens s'y prennent plus tôt, il y aura une pression de ces gens pour dire il n'y a pas assez d'appartements seniors. Et il faut qu'il y ait une conjugaison pour que ça se développe. Il faut qu'il y ait une incitation, je dirais, institutionnelle, si vous voulez, et une pression démographique aussi. Il faut que ces centres de pression se regroupent pour arriver à améliorer aussi, je dirais, d'une façon générale, nos centres-villes.
Vous parlez de traumatisme. L'ethnologue Jacques Hénard dit que lorsqu'on quitte son domicile, c'est une blessure autobiographique profonde, ce que vous avez parfaitement exprimé. Alors, les moyens justement pour faciliter la transition, donc c'est s'y prendre bien en amont, c'est ce que vous nous dites au
fond.
C'est
très en amont. Il y a toute une préparation, je dirais... Vous me permettez l'adjectif intellectuel. En amont, il faut se dire, ben maintenant j'arrive à tel et tel âge, voilà, j'ai une mobilité peut-être un peu réduite. Il faut que je commence à songer à me séparer d'un certain nombre de choses. Il y a toute une préparation.
Nicole, on va entendre la voix de quelques seniors qui ont quitté leur logement de leur plein gré.
Absolument, c'est un extrait de À bon entendeur consacré donc au nouveau mode d'habitat avec un détour par chez vous, Viviane Horn, par Romand et puis aussi par Seine-Légier.
On est des jeunes vieux, comme je dis, ma foi, il faut l'accepter. Et puis, ce qui m'a plu aussi, c'est le cadre. On est en pleine campagne, pratiquement. L'air est pur, il fait un peu plus froid, c'est vrai, mais à part ça, pour l'instant, au bout de 6 mois, on est bien et on ne regrette pas notre choix.
Bonjour Edouard.
Bonjour. Vous avez décidé la Romana.
La Romana.
Les relations entre voisins, ça se passe comment?
Comme vous les avez vues. On a commencé immédiatement de se tutoyer ou presque. On s'est tous trouvés sympathiques, je pense, et puis on a fini par aller une fois ou deux les uns chez les autres, on se voit à la salle commune.
Mais ici, pas question de vie communautaire en permanence, chacun est bien chez soi, locataire de son appartement et dans ses propres meubles. Autre choix, autre canton, c'est dans le Jura, à Seigne-Légier, que nous avons rencontré la délicieuse Lucie, 86 ans, véritable personnage de la résidence des Marguerites.
Ah ben voilà, il me faut encore aller chez Stendre et aller voir ce qu'il dit, ce qu'il fait.
Bonjour. Allez.
Salut, comment vas-tu?
Ça va
tout bien, justement.
On aime bien avoir notre André qui nous aide. Hein. Ouais.
Et puis, il va porter des poubelles, il pèle la neige.
Le vieux papier.
Porter le vieux papier, tout ce qui est lourd.
Oh, elles sont gentilles, hein. Elles n'ont pas les mains baladeuses, c'est déjà quelque chose.
André a 91 ans.
Adieu, porte-toi bien.
Bonne journée, au revoir.
On va voir chez vous.
Voilà, on va chez nous. Alors, c'est un express?
Oui, volontiers.
Avant, j'habitais les Bois pendant 50 ans. Et puis, j'avais tellement un appartement qui était beaucoup trop grand pour moi, des escaliers. Et un beau jour, j'ai reçu un des clients depuis Seigne-et-Légier qui faisait justement des appartements pour les personnes âgées. Alors, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, oh là là, Seigne-et-Légier, c'est super. C'est mon lieu d'origine, c'est mes racines. Alors, je vais repartir à Seigne-et-Légier. J'ai dit à mes enfants, mais ils n'étaient pas trop d'accord. Ils m'ont dit, mais maman, qu'est-ce que tu vas aller faire à Seigne-et-Légier et puis vivre toi avec des personnes âgées? J'ai dit, mais je suis une personne âgée. Alors, j'ai déménagé, ça fait 4 ans et demi. Que je suis ici et je suis heureuse.
Liliane Horn, on a entendu des résidents de Praromont, un couple qui a décidé de vous suivre dans cette aventure de l'association Net Age. Comment a-t-elle débuté? Quel a été le déclic?
Alors le déclic, c'est très simple. En fait, c'est un problème de famille qui a déclenché le tout. Ma pauvre maman, à 86 ans, s'est cassé le col du fémur. C'est classique. Mais elle n'a malheureusement pas récupéré. Et il a fallu la mettre en EMS. Et quand ma pauvre maman a resté 10 ans en EMS, vous savez, c'est très très long. Hein, et c'est très long aussi pour la famille. Et il y avait des tas de gens qui n'avaient rien à faire dans cette EMS. Et puis ça m'a titillé, puis j'ai dit, ah bon, bah écoute, il faudrait réfléchir un peu.
Mais
à
comment
ça
rien à faire dans cette EMS?
Non, ils étaient trop bien pour être en EMS. Alors qu'il aurait fallu pouvoir mettre ces gens-là dans ce qu'on appelle aujourd'hui des structures intermédiaires, les logements protégés. Mais c'était vraiment au tout début. Et puis alors, il y avait une femme remarquable dans notre groupe, Patricia Fantam, pour pas la nommer, qui était une femme remarquable et qui nous a un peu orienté vers ce système d'appartements protégés, de résidences protégées, de résidences groupées. Alors il y a eu une grosse évolution dans le canton, puisqu'on a parlé d'abord de l'habitat groupé sécurisé, qui a été refusé par les autorités politiques.
Donc le terme a été refusé, c'est ça?
Le concept a été refusé, oui, carrément, par le Grand Conseil. Et puis on a continué à travailler. Et moi j'ai eu la chance de faire partie de cette commission, je peux appeler peut-être extra-parlementaire, qui comprenait des directeurs d'EMS, des architectes, etc. Et puis moi qui ramais là-dedans, pour amener plutôt une vision moins, un peu plus jeune, si vous voulez, de l'habitat protégé. C'est-à-dire que chez nous, on est arrivé à avoir une population qui n'est pas composé uniquement de gens handicapés sous une forme ou sous une autre. Donc on a des gens en pleine forme et on a des gens qui sont en moins bonne forme. Mais ce qui fait une société intergénérationnelle, mais disons entre 60 et 95 ans, et qui peut s'aider, qui peut collaborer, qui est une société vivante. Mais nous avons 80 personnes.
Hein. Et ça marche.
Et ça marche.
Parce que c'était ça la question aussi.
Bien sûr.
Une résidence médicalisée?
Non.
Donc ça, c'est aussi important.
Les logements protégés, par définition, ne sont pas médicalisés.
Mais ceci étant, c'est plus facile, on va dire, de vieillir quand on a les moyens aussi. Hein. Je crois qu'un 80 mètres carrés après Romans, ça coûte quoi 2100 francs de loyer. Oui. Voilà, donc c'est destiné, on va dire, aux classes moyennes.
Mais c'est les prix du marché. Hein.
C'est les prix du marché.
Alors, c'est pour dire l'avantage des prix du marché, c'est que en fait, nous ne sommes pas tributaires, nous ne sommes pas redevables à qui que ce soit. C'est nous qui gérons nos appartements. Donc, on peut faire cet équilibre de gens, je dirais, tout à fait autonomes, d'autres qui le sont moins. Contrairement à des appartements subventionnés, où alors là, forcément, ils doivent accepter d'abord ce que les CMS leur disent de prendre. Donc, c'est une indépendance, mais qui valorise, bien entendu, notre site, mais qui nous impose aussi une certaine discipline.
Mais on entend. Oui, excusez-moi.
Il y a une certaine péréquation aussi qui se fait entre les habitants, ceux qui peuvent mieux payer, ceux qui peuvent moins bien payer,
voilà.
De sorte que ça améliore au fond la mixité sociale. Oui, si on veut.
Tout à fait, tout à fait.
On a entendu dans cet extrait de temps présent une dame de Seignelay-Légier qui explique que sa famille n'avait pas du tout envie qu'elle quitte son appartement pour aller dans une résidence communautaire. Donc les résistances ne sont pas vraiment là, on s'y attend.
Alors, parler des enfants, c'est un problème extrêmement important. Les enfants, il y a deux cas de figure, on peut dire, opposés. Il y a ceux qui sont contents de caser leurs parents, qui nous fichent la paix. Et puis, il y a les autres qui disent, mais là, tu seras très bien. Et puis, on continuera à t'encadrer, à venir te voir, à te faire tes commissions, etc. C'est vraiment des cas très, très différents.
Vous riez quand on a dit enfant, Jacques Dantan, pourquoi?
Non, j'ai pas d'expérience particulière dans le domaine. Je trouvais effectivement la différenciation des situations. Je pourrais faire état de ma propre situation entre la position de ma sœur, la mienne, quant au vieillissement de nos parents, qui était assez différencié. Et parfois, il y a effectivement des problèmes de fratrie à résoudre face à certaines situations qui sont pas très faciles.
Je vous propose une petite valse et puis on ira faire un petit tour au cinéma.
Niemand kommt rein und setzt sich hin, den Fuß auf den Tisch, Hand und das Kinn. Niemand ist hungrig, mein Frühstücksmenü. Niemand kommt immer zu früh. Niemand, ich habe Geschenke für dich. Was wär ich geworden? Gäb es dich nicht, meine gesammelten Werke. Bitte sehr, alles gehört. Thank you.
Valse für Niemann, c'était Sophie Unger.
En ce qui concerne les corvées, je propose qu'on fasse des équipes de deux et qu'on tourne toutes les semaines.
On est cinq. C'est pas pratique de faire des équipes de deux.
Non, non. Et puis on n'a pas tous la même mobilité.
Moi, je crois qu'il faudrait mettre en place un système libertaire, sans chercher à calquer un modèle collectiviste.
Qu'est-ce que tu entends par libertaire ?
Ben, chacun est libre de participer ou non. On est amis depuis si longtemps, hein ?
Moi, je vote pour ça, évidemment.
Et moi aussi.
Et toi, Albert ?
Moi, je vote pour Jeanne.
Si j'ai bien compris, on s'est réunis pour décider qu'on ne décide rien.
Extrait du film « Et si on vivait tous ensemble », Nicole Duparc, c'est pas seulement au cinéma.
Ah ben non, parmi les expériences, on va dire, les plus médiatisées, en tout cas des expériences militantes du vivre ensemble, c'est selon celle des Baba Yaga à Montreuil, en France, un lieu de vie créé par des femmes, pour des femmes, un lieu autogéré, citoyen et écologique. Bref, on écoute.
On ne se sent pas encore vieux dans nos têtes. Donc, moi, par exemple, j'aimerais bien faire un café citoyen en bas. Il y a d'autres personnes qui ont d'autres projets. Et en fait, on va créer des activités qui vont s'ouvrir sur le quartier et la ville.
Ici, il n'y a que des femmes aux revenus modestes. Pour 420 euros par mois, chacune son appartement, chacune son indépendance. Ce qui n'empêche pas de partager des moments ensemble. L'idée des Baba Yaga, c'est vraiment de ne pas laisser la solitude ternir le quotidien.
Entre vieillir seul chez soi, dans un bâtiment lambda, et vieillir avec des personnes que l'on connaît, que l'on fréquente au sein d'une association en plus, c'est vraiment très bien.
Angela a toujours vécu à Montmartre. Si cette Anglaise de 63 ans s'est décidée à déménager, c'est parce qu'elle admire le pacte des Baba Yaga, l'engagement de veiller les unes sur les autres.
Le jour viendra où peut-être que certaines de nous auront des problèmes de santé ou autres, donc chacune fera ce qu'il pourra selon ses possibilités. Ça fait partie de la charte, le principe d'entraide.
Le projet Baba Yaga, du nom d'une sorcière dans un conte russe, c'est elle, Thérèse, qui en a eu l'idée il y a déjà 15 ans. À 85 ans, elle reste la meneuse et la plus engagée.
C'est un bel âge, et je répète que c'est l'âge de la liberté, de la profonde liberté. Mais tout cela, il y a des pédagogies aussi pour y arriver. Et la pédagogie collective, pour moi, est unique. La vie collective est vraiment ce qu'il y a de mieux au monde pour pouvoir parler, échanger, régler les problèmes, faire un rapport de force.
Ici, les projets ne manquent pas. Il reste seulement pour ces 21 sorcières bien-aimées à écrire leur propre conte.
La vita façon Baba Yaga, Villiers Adorn, Jacques Dantan, que vous inspire l'expérience de ces dames très dynamiques ?
Moi j'aurais envie de dire que c'est une expérience absolument fabuleuse, parce que ces personnes ont créé leur propre situation, elles l'ont voulu, et elles répondent parfaitement à leurs besoins parce qu'on vit chez soi. Et puis, quand on veut rencontrer les autres et avoir une vie sociale, eh ben, elle est là sous la main. Et c'est justement la problématique qu'on abordait tout à l'heure de l'isolement croissant face à la politique de maintien à domicile jusqu'au bout. Là, ce sont ces gens qui ont choisi cette formule d'habitat qu'on ne peut pas forcément généraliser et qui a la valeur qu'elle a été imaginée par ceux qui la vivent.
Des générations qui ont vécu toutes ces expériences de vie communautaire à l'époque, ça change également le regard, la façon d'être peut-être plus créatif par rapport aux habitats d'aujourd'hui.
Je pense pas que l'expérience soit... Les générations précédentes n'ont pas vraiment connu ce genre de
non, justement,
de
c'est
problème.
Quelque chose de neuf.
C'est
avant, c'est en famille.
Voilà. Donc, il y avait trois générations sous le même toit.
Exactement.
Hein. Donc, maintenant, ça, c'est bâclé. Heureusement qu'il y a Skype sur Internet, parce que on a des enfants qui sont aux États-Unis, en Australie, ou je sais pas où. C'est très, très différent. Donc, la société il y a eu une mutation de société très importante.
Et que vous avez suivi, puisque, comme vous le dites, vous êtes sur votre ordinateur.
Bien sûr, oui, bien sûr.
Mais bien.
Mais surtout, ce que je voulais ajouter par rapport au reportage qu'on vient d'entendre, c'est que ma femme et moi, nous avons connu cette solitude. Nous habitions un grand ensemble immobilier, locataire, où il y avait, je crois, à peu près 150 appartements. C'était magnifique, vu sur le lac, extraordinaire, mais nous étions seuls. Nous étions absolument seuls. Et puis on s'est décidé à venir à Praroman, qui est une magnifique réalisation, bien entendu. Et depuis, on n'a plus une minute. Parce que on est en contact avec des gens de notre âge, c'est vrai, mais des gens dynamiques. Parce que la dynamique, ça se cultive. Il faut pas croire que on arrive à 80 ans puis qu'on se tasse devant sa télé, c'est pas vrai. Lundi dernier, nous avons fait une grande balade en Gruyère. On a été à Braux, on a été à Gruyère. On a passé une journée absolument magnifique. Mais nous l'aurions jamais fait si nous étions restés dans notre appartement précédent. Donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Et je crois que la dynamique entraîne la dynamique. Mmh. Et ça permet de mieux vieillir.
Mais vous n'avez pas l'impression d'être cloisonné?
Pas du tout.
Mais c'est important, parce que vous avez dit que vous avez tous le même âge. Vous n'avez pas l'impression d'être dans un monde, entre guillemets, de retraités.
On est entre 60 et 93 ans, voilà.
Oui, juste moi, je voudrais ajouter alors à ce que tu viens de dire. Ces gens ont choisi de venir à Praroman et d'accepter la culture qu'il y avait. Alors après, c'est tout simple. Mais si je regarde par rapport à la qualité de vie des amis, de mes contemporains, j'ai un problème, l'impression d'être seul avec mon emploi du temps, mes projets, on va pas dire professionnels, mes projets de vie. Les gens de mon âge, mes contemporains, il y en a deux qui sont avec des difficultés de démence, et puis des autres qui ont des ennuis de santé physique. Et moi, j'aurais plutôt de la peine à imaginer de faire des choses avec eux. Parce que je vis dans mon monde, comme gérontologue, là, est-ce qu'ils savent encore ce que c'est que d'être gérontologue? Je me sens assez seul par rapport à mes contemporains. Mm-hmm. Mais voilà, alors je pense que ton appel du pied, moi je reste toujours dans mon habitat où on a une vie sociale qu'on pourrait développer. Il y a un choix, je pense que le choix du mode de vie est très important pour la suite. Suite des opérations.
On entend hein, dans ce que vous dites, et puis aussi dans l'expérience par exemple des Baba Yaga, qui a ce désir d'une vie plus communautaire et puis de changer la représentation que les seniors ont d'eux-mêmes. Ça, c'est, je pense qu'on l'entend assez fortement. Et puis, parmi ces nouveaux modes, il y a aussi l'habitat intergénérationnel, dont on parle de plus en plus, mais on voit que c'est pas forcément si simple à réaliser, en raison des stéréotypes que les vieux et les jeunes ont les uns sur les autres. C'est un peu un mot magique, l'intergénérationnel?
Oh, je pense que c'est un mot qui est actuel, si vous voulez, mais dans l'intergénérationnel, nous on l'a conçu dans la partie élevée des âges, et il y en a d'autres qui pensent que des familles et des enfants peuvent s'occuper d'un voisin, etc. Pourquoi pas? Mais de nouveau, que ce soit quelle que soit la forme d'habitat, il faut qu'il y ait toutes les formes d'habitat possibles, pour toutes les bourses possibles, pour tous les caractères possibles. Et c'est là où, pour l'instant, je pense qu'il y a encore beaucoup à faire pour combler les vœux des uns et des autres. Nous ne sommes pas tous les mêmes.
Ce qui a changé également, ce sont beaucoup plus de familles recomposées. Est-ce que cela, ça change la donne aussi?
Alors ça donne, en tout cas, la donne sur la problématique du marché du logement, parce qu'il y a tout d'un coup une demande qu'on peine à satisfaire Et puis ça pose aussi des problèmes financiers parce que les montants à disposition pour habiter ne sont plus les mêmes et justement on ne trouve pas de logement qui serait adapté à quelqu'un qui aurait son revenu amputé de moitié comme ça se passe assez souvent dans les...
Parce qu'autrement ça pourrait être une chance effectivement pour réinventer justement ces liens intergénérationnels au sein du cercle familial recomposé.
Moi, je pense
vous n'y croyez pas, hein, Billiano.
C'est-à-dire, non, je dis pas que je n'y crois pas. Je dis que c'est un autre problème. Le problème de l'habitat senior, c'est déjà un problème très compliqué. Et je pense que l'habitat familial est un autre problème aussi très compliqué. Mais je crois pas qu'il faut les superposer.
Mais c'est pas nécessaire que l'intergénération doive se réaliser forcément entre quatre murs. Il y a des expériences, par exemple le prix Chronos de la Fondation pour s'écouter, où on amène des personnes âgées et des jeunes à lire une sélection de petits récits écrits par des auteurs habitués à ce métier sur à s'adresser à un jeune public sur la vie des personnes âgées. Ça marche très très fort. On a des milliers d'élèves dans les écoles de toute la Suisse romande qui lisent ces sélections et qui en parlent avec les grands-parents, où il y a des grands-parents qui viennent faire des séances de lecture dans les classes. Il y a des instituteurs qui font de la petite dramaturgie, où on reprend avec les élèves certains aspects du récit que l'on met en scène. Et là, je crois pas qu'il va vouloir faire de l'intergénération exclusivement entre quatre murs. C'est peut-être plus difficile parce qu'on est là tout le temps ensemble. Les expériences qu'on fait, par exemple, avec les jardins d'enfants dans les EMS, là, les différentes générations sont énormes. C'est pas toujours facile.
Mais ça peut être inspirant aussi.
Voilà.
D'avoir des grands-parents.
Bien sûr.
On peut toujours des gens passionnés, vous savez. Et ça peut marcher pendant 5 ans sous le fait sous la férule d'une personne qui a un certain dynamisme et puis la 6e année ça marche plus parce qu'il y a personne pour prendre le relais. Donc ça c'est un problème qui n'est pas actuel, c'est un problème quotidien et au long des années, il faut toujours des gens qui s'engagent.
Absolument, on l'aura compris pour vous, Willy Allen, le dynamisme est quelque chose d'important. Nicole Duparc, comment habiter ensemble lorsqu'on a perdu sa mobilité? C'est pas toujours facile non plus.
Alors on va prendre l'équation habitat et Alzheimer qui préoccupe bien sûr de plus en plus de familles. On va se rendre à Vevey dans le nouveau centre d'accueil temporaire mis sur pied par la fondation Ebenezer et conçu par l'architecte Thierry Schmid. C'est le CAT, il est situé au centre-ville, il reçoit chaque jour donc des malades Alzheimer. Alors comment habiter tout simplement un espace lorsqu'on a perdu ses repères? De quelle façon cette expérience change aussi le regard de l'architecte plus généralement sur l'habitat senior ou son évolution? Petite visite guidée en compagnie de Thierry Schmid. Alors Thierry Schmid, ce plafond, il a l'air d'un plafond comme les autres, mais c'est pas un plafond comme les autres.
Alors, c'est un plafond qui est comme les autres, mais qui nous a fait un petit peu réfléchir. On a l'habitude de mettre des plaques de plafond qui sont un peu mouchetées et qui, en fait, sont des absorbeurs acoustiques. Et ici, on a opté pour quelque chose de lisse et d'uniforme parce que les résidents auraient eu envie d'attraper ces taches foncées ou de les compter. En tout cas, c'est quelque chose qui les aurait perturbés. Et voilà, ça c'est un exemple de quelque chose qui paraît banal et puis qui n'est pas dans un cadre aussi spécifique qu'ici. Alors c'est vraiment s'imaginer être à la place de ces gens, se poser des questions tout d'abord de mobilité, quelle est leur capacité à se déplacer dans un espace, à appréhender aussi les volumes et les surfaces, de comprendre dans quel endroit ils se trouvent, et puis beaucoup de questions d'ergonomie. Il faut éviter des angles abrupts, il ne faut pas qu'ils puissent se blesser, il ne faut pas que les sols soient glissants. Après, il y a aussi tout l'aspect technique, un peu de la facilité d'exploitation, d'entretien, de choses comme ça.
Donc un cahier des charges plutôt contraignant.
Oui, évidemment, c'est toujours plus contraignant de faire ce genre d'installation que lorsqu'on travaille pour du logement, par exemple. Le logement, on est tous un peu des experts du logement, puisqu'on habite dans un lieu, dans un appartement ou une maison. Et puis, évidemment, c'est plus facile de connaître les contraintes de la vie de tous les jours. Ici, on est dans un cadre qui est différent. Et heureusement, on a pu aussi avoir de l'expérience sur d'autres projets de ce type, pour d'autres fondations. Et chaque fois, on apprend des choses en travaillant aussi de manière un peu participative avec les utilisateurs ou les utilisatrices. Ça veut dire qu'ils sont associés au projet. Ils vont nous mettre un peu le doigt sur les zones critiques pour les patients, nous expliquer par exemple des questions de contraste. Quand on franchit un espace, certaines personnes peuvent se sentir un peu déstabilisées par des différences de contraste au sol. Eux vont interpréter ça comme une marche. Et donc, ils vont avoir de la peine à franchir cette porte ou à passer à l'espace suivant. Mmh. Il y a aussi toute la question des seuils. Ici, vous voyez qu'on a un espace extérieur. Évidemment, ces gens ont une mobilité qui est un petit peu réduite. Et donc, on va essayer de minimiser les seuils, la hauteur des seuils. Finalement, répondre aux normes handicapées. Mmh. Il y a certaines couleurs qu'il faut éviter parce qu'on doit proposer des espaces qui sont calmes et reposants. On va éviter peut-être le rouge ou des couleurs qui risque de créer une certaine forme d'excitation.
Alors là, on est face à un mur sur lequel ont été apposés des motifs de feuilles orange-jaune.
Alors ça, je crois que c'est les bénéficiaires qui les ont faits. C'est aussi une manière de s'approprier un peu le lieu pour eux, c'est-à-dire de se sentir un peu chez eux. Et il y a quelque chose qui est très important pour nous, c'est toujours d'intégrer dans ces lieux d'accueil une dimension domestique. C'est-à-dire que les patients vont se sentir dans ce lieu comme à la maison. C'est notre recherche. Peut-être pas comme à la maison, mais en tout cas d'avoir une référence domestique.
Alors qu'est-ce que ça veut dire se sentir comme à la maison quand on n'est pas à la maison ?
Alors c'est déjà un travail sur les matériaux, puisqu'on essaie ici, on a mis un sol en synthétique qui reprend, c'est une imitation en fait de parquet. C'est des matériaux qu'on a l'habitude d'avoir dans des logements. Et puis, c'est aussi des questions spatiales, c'est-à-dire avoir des espaces qui sont peut-être pas trop grands, qui sont à une échelle un peu humaine ou à l'échelle de l'individu. Et puis, définir quelques zones en laissant aussi un peu de liberté. Il y a une certaine forme de modularité qui permet justement aux personnes qui sont ici, autant aux exploitants qu'aux bénéficiaires, de pouvoir s'approprier l'espace. Oui.
Alors, prenons un exemple concret. Là, on est où au fond ?
Alors là, on est dans un espace qui est un peu à l'interface entre la zone de la cuisine, dans laquelle ils préparent les repas et puis ils se nourrissent, et puis une zone qui est à l'arrière, qui est un petit peu plus privative, dans laquelle, je pense, ils vont pouvoir discuter et faire quelques activités avec les patients. Donc, la zone ici, elle est un petit peu, c'est un peu une zone de transition qui finalement est pas trop définie. Et ça permet ensuite de voir un peu au jour le jour, de faire peut-être un jour une activité, un jour une autre, en fonction des demandes des patients, de leurs besoins. Et c'est cette modularité, je pense qu'elle est importante dans ce type de projet.
Alors, qui dit patient Alzheimer dit perte de mémoire, donc perte de repère aussi dans l'espace, vous l'avez évoqué. Très concrètement, comment vous en tenez compte en tant qu'architecte, ou comment vous en avez tenu compte très concrètement en tant qu'architecte dans ce travail-là pour élaborer cet espace-là ?
Alors, ce qu'on a mis en place ici, ça a été d'avoir un fond finalement relativement clair et puis de travailler avec une couleur dominante. Cette couleur dominante, vous la voyez derrière nous, c'est un orange assez soutenu. Et puis, cette couleur, elle permet de différencier un peu les espaces. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans un endroit qui est marqué. Et vous voyez qu'il y a une cohérence entre les meubles et les murs. Mais c'est une couleur qui apparemment joue bien avec le travail qui est fait ici et qui psychologiquement n'a pas un impact trop perturbateur sur les résidents.
De normes et de particularités, on va dire, pour l'architecte. On se dirige vers la cuisine ?
Oui. Alors là, c'est une cuisine qu'on a mis ici qui est en fait en îlot, ce qui permet de pouvoir se balader autour. Et puis, je sais que les résidents travaille à la cuisine, il participe à l'élaboration des repas. Et puis c'est une forme qui est relativement fluide par rapport à la manière de se déplacer autour. Et puis on a aussi des meubles qui sont sans poignée, pour éviter que les résidents aillent se servir tout seuls.
Ah bon. Donc vous n'avez pas de normes anti-tag, mais de normes anti-tiroirs...
Anti-boulimie,
ouais.
Voilà, exactement. C'est des normes anti-boulimie. Ouais. Il y a des unités dans lesquelles...
Ça vous a un peu surpris ?
Oui, parce qu'en fait, on est dans une population qui est relativement âgée, et puis ils retournent dans une certaine forme d'enfance, et voilà. Et dès qu'il y a quelque chose à ouvrir, à aller chercher, ils ont encore cette curiosité, peut-être qu'elle est liée aussi à leur perte de mémoire.
Ouais. Alors là, on l'empêche, cette curiosité, du coup.
Alors on l'empêche parce que, bon, il y a quand même un certain ordre qui doit régner dans ce cat. Et puis, bon, c'est des patients qui sont peut-être aussi maladroits, s'ils vont sortir des verres et puis qui cassent la vaisselle, c'est ennuyeux. Et ils doivent aussi respecter un peu les heures des repas, donc ne pas les servir dans le frigo tout seul. On a aussi un four qui est en hauteur, mm-hmm. pour éviter qu'ils puissent se brûler.
Mm-hmm. Thierry Schmitt, qu'est-ce qui était au fond radicalement nouveau par rapport à votre pratique d'architecte ?
Je crois que c'est un sens assez important du détail. On doit regarder les choses avec beaucoup de minutie, parce que ce que l'on peut mettre qui correspond à des standards dans du logement ou dans d'autres structures peuvent être ici des problèmes, des petits problèmes de bordure, de seuil, de choses comme ça. On est vraiment dans une ergonomie poussée à son paroxysme.
Alors certains prônent l'utilisation, le recours à la domotique, donc un certain nombre de technologies. Est-ce que dans un lieu comme celui-ci, qui reçoit des patients Alzheimer, c'est utile selon vous ? Est-ce qu'il y en a ici ?
Alors ici, il n'y en a pas beaucoup. Principalement parce que l'exploitation est assurée par le personnel. Ouais. Et c'est eux qui s'occupent de l'aspect, disons, technique ou de fonctionnement du CAT. Je pense que le cas serait différent si on était dans un logement protégé, dans lequel des résidents auraient beaucoup plus d'indépendance et auraient besoin d'avoir une sécurité qui pallie à une surveillance qui n'est pas constante. Mmh. Ici, ce qui est intéressant, c'est par exemple les digicodes.
Ouais. Alors allons voir les digicodes. Voilà la recherche du digicode. Voilà, alors là on est devant le digicode. Qu'est-ce qu'il a de particulier, Thierry Schmitt ?
Alors ce qu'il a de particulier, c'est qu'il se trouve à l'intérieur. On a l'habitude de sécuriser les bâtiments pour éviter que les gens rentrent. Et puis ici on est dans une problématique qui est totalement inverse, c'est-à-dire éviter que les patients ne puissent sortir. Parce qu'on est dans un milieu qui est urbain, et puis évidemment il y a tous les dangers liés à la circulation, au flux de piétons, de voitures, de vélos, etc. Et donc le bâtiment est clos depuis l'intérieur. Et puis les utilisateurs ont une clé. Ça implique aussi que la défense du feu doit avoir une clé, parce qu'en cas d'incendie, il faut qu'ils puissent pénétrer à l'intérieur. Sinon, les gens sont coincés. Voilà.
C'est un peu anxiogène, quoi.
Oui, alors c'est un peu anxiogène de ce point de vue-là, parce que nous, on a l'habitude de concevoir des structures avec des voies de sortie qui doivent être sans embûches. Les portes doivent toujours s'ouvrir vers l'extérieur pour éviter que les gens puissent être piétinés dans le cas d'une panique. On a toutes ces choses qui sont... Ici, on a renversé le problème. Mmh. Et ça, c'est assez intéressant.
Mmh. Est-ce que ce que vous avez appris ici est utile ailleurs dans votre pratique ?
Moi, je dirais que oui, parce que maintenant, quand on conçoit des logements ou même des maisons, aussi dans le cadre de mandats privés, on est sensibilisé à ça. Et moi, je pense toujours, quand j'ai des clients, à ça, et j'essaie de les sensibiliser au fait que un jour, il pourrait arriver un accident, ils peuvent être tout d'un coup handicapés, avoir même de manière temporaire, mais une jambe cassée, ou alors se retrouver plus durablement dans une chaise roulante. Et j'essaie de leur expliquer que on peut peut-être concevoir une maison ou même des aménagements avec une prévision à long terme. C'est-à-dire de se dire, dans 40 ans, comment je pourrais vivre dans ma maison si ma mobilité est un peu réduite. Mmh. Et on se retrouve souvent dans des maisons que l'on rénove, qui sont anciennes, qui ont été construites sur plusieurs étages, avec des grands escaliers. Et cette question-là se pose. Et personnellement, moi, j'ai vu ma grand-mère qui a dû quitter sa maison parce qu'elle n'arrivait plus à monter à l'étage supérieur. Mmh. Donc, ces questions de mobilité, de handicap, elles nous touchent. Et puis, je pense qu'on est, on est plus conscient de cela en faisant des projets comme SOCAT.
Donc, ce qui voudrait dire qu'à l'avenir, l'idéal, ce serait de concevoir des logements modulables, c'est-à-dire qui peuvent être développés en logements adaptés, puisqu'on les définit ainsi, faute de mieux.
Oui, c'est ça. Et puis, c'est l'intégration aussi constante de normes handicapées. Par exemple, dans une salle de bain, il faut pouvoir tourner avec une chaise roulante. Quand vous êtes en fauteuil roulant, quelques centimètres de seuil, c'est un problème, c'est un réel problème. Et ça, on n'en est pas conscient parce qu'on a la chance d'être en bonne forme.
Donc, c'est vraiment un travail pour l'architecte qui doit inclure réellement l'autre. Parfois, on se retrouve dans des appartements, on a l'impression que l'architecte s'est fait plaisir au niveau du design, mais que c'est pas forcément justement très fonctionnel, très pensé. C'est pas forcément pensé en fonction de l'autre, de l'usager. Ici, c'est une contrainte incontournable.
Oui, c'est une contrainte incontournable. C'est pour ça que j'aime bien dire pour ce projet que c'est pas un projet architectural, c'est finalement une aventure humaine. C'est se mettre à la place de l'autre, un autre qui n'a pas les mêmes capacités que nous. Et puis ça, c'est absolument passionnant. Mmh. Et évidemment, comme architecte, on doit se mettre dans une posture un peu humaniste pour faire ce genre de projet.
Merci à Thierry Schmitt, un architecte qui a une grand-mère. Avant de se quitter, Willy Van Horn, Jacques Dantan, un post-scriptum, parce que le temps file.
J'aimerais dire que j'ai beaucoup apprécié la conclusion de votre architecte. Vraiment, on ne peut pas raisonner en termes de compartiments, ceci, cela, etc. Il faut essayer de faire de l'architecture une aventure commune pour concevoir, essayer de s'installer. Et voilà, j'aimerais aussi saluer votre initiative interdisciplinaire radio-télévision qui va me rendre de grands services dans mon travail au sein de la société d'urgentologie.
Willy Van Horn.
Oui, eh bien, je voudrais dire à vos auditeurs que vieillir, c'est magnifique. Et je voudrais transformer l'essai en un véritable but pour dire que vieillir, c'est magnifique. Il faut vouloir, il faut avoir la dynamique, il faut être résistant et volontariste. Voilà.
Messieurs, je vous remercie. Et puis cette émission se termine avec vos très très beaux sourires à l'un et à l'autre. Babylone, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été avec nous. Babylone, c'est à 9h et à 19h tous les jours. Une émission que vous pouvez également podcaster sur rts.ch/Babylone. La musique qui nous accompagne en fin de Babylone est signée René Aubry, Refuge. Vous écoutez Espace 2, merci et merci d'avoir été avec nous. Bonne écoute sur Espace 2.
Nous avons rendez-vous dans Jazz tout à l'heure à partir de 22h42, histoire de retrouver quelques très bons comme Bobby Hutcherson, Philippe Catherine, Eddie Lewis, Michel Petrucciani seront là aussi, histoire d'égrener quelques beaux standards de Victor Young, de Jérôme Kern, de grands classiques composés deux par deux, histoire de comprendre ce qui se passe d'un interprète à l'autre, tout à l'heure dans Jazz donc.
Thank you.